Chapitre 5 Rêve de dragon. Tintaglia battait frénétiquement des ailes. Rain serra fort les paupières alors que la plage se précipitait vers lui. Les rafales de vent étaient épouvantables, cela allait être dur. Les pattes postérieures griffues se posèrent sur la grève en labourant le sable et le corps plongea vers l'avant. Elle le tint bien cette fois. Et les serres contractées approfondirent les meurtrissures qui entouraient en permanence la poitrine de Rain. Il réussit à atterrir sur ses pieds quand elle le lâcha, et il s'écarta en titubant tandis qu'elle se stabilisait sur ses membres antérieurs. Il fit quelques bonds en avant et s'effondra sur le sable mouillé, pitoyablement soulagé de retrouver la terre ferme.
« Les dragons ne sont pas faits pour atterrir de cette façon !»
dit Tintaglia d'un ton plaintif.
« Et les humains ne sont pas faits pour être lâchés comme ça !»
riposta Rain d'un ton las. Chaque respiration était douloureuse.
« C'est bien ce que j'ai essayé de te dire au début de cette histoire insensée !»«
Va chasser !»
répondit Rain. Il était inutile de parler avec elle quand elle avait faim. Quelle que soit leur discussion, c'était toujours sa faute à lui.
« Ça m'étonnerait que je trouve quelque chose à cette heure !»
rétorqua-t-elle avec mépris. Mais elle se prépara à reprendre son vol en déclarant
« Je vais tâcher de te rapporter de la viande fraîche !»
Elle disait toujours ça. Parfois, elle pensait en effet à en rapporter. Il n'essaya pas de se lever avant d'avoir senti le vent de ses ailes l'effleurer. Alors, il se força à se remettre debout et parcourut la plage en titubant jusqu'à la lisière d'un bois. Il obéissait à ce qui était devenu un fastidieux rituel. Du bois, un feu, de l'eau douce s'il y en avait à portée de main, de l'eau de ses outres s'il n'y en avait pas, un maigre repas avec ses provisions qui baissaient de façon affligeante. Puis, il se recroquevillait près du feu et dérobait un peu de sommeil. Tintaglia avait raison à propos de sa chasse. Le bref jour d'hiver avait filé et les étoiles commençaient à s'allumer dans le ciel. La nuit allait être claire et froide. Au moins ne serait-il pas trempé par la pluie, seulement gelé. Il se demanda machinalement si le travail que Tintaglia avait assigné à ses compatriotes avançait. Draguer le fleuve des pluies était périlleux, non seulement en raison des crues hivernales imprévisibles, mais aussi à cause de l'acidité de ses eaux. Les tatoués qui avaient acheté leur statut de marchand des pluies avec leur labeur auraient à le payer fort cher. Terrilville avait-elle réussi à rester unie? Les Chalcédiens avaient-ils opéré d'autres descentes depuis son départ? Tintaglia avait détruit impitoyablement leur vaisseau. Peut-être suffisait-il de la menace d'un dragon pour les tenir en respect. Durant le vol au-dessus de la passe intérieure, Rain avait aperçu de nombreux vaisseaux chalcédiens, galères et voiliers. Leur nombre l'avait convaincu qu'ils avaient nourri des desseins de plus grande envergure que la simple invasion de Terrilville. Les navires poussaient tous sur le sud en formation guerrière chalcédienne avec un immense navire ravitailleur et plusieurs galères de combat. Une fois, ils avaient survolé un village tout en fumée, probablement une colonie pirate rasée par les Chalcédiens en route vers le sud. Tintaglia menaçait souvent les navires et galères chalcédiennes, prenant un malin plaisir à semer la panique. Le mouvement régulier des avirons mollissait et baissait quand son ombre passait au-dessus des ponts. Les hommes se cachaient en tremblant, ceux dont le gréement fuyait de leur perchoir. Une fois, Rain avait vu un homme plonger et disparaître dans la mer. À chaque vaisseau survolé, il était saisi de doutes atroces. Malta était-elle prisonnière à bord? Tintaglia l'avait assuré avec hauteur que si elle s'approchait suffisamment de l'endroit où Malta se trouvait, elle la sentirait.
« C'est un sens que tu ne possèdes pas, et dès lors je ne peux t'expliquer. »
avait-elle ajouté avec condescendance.
« Imagine que tu essaies d'expliquer le sens de l'odorat à quelqu'un qui en est dépourvu. Cette faculté qui paraît arbitraire, presque mystique, n'est pas différente de celle qui te permet de sentir des fleurs de pommier dans le noir. »
Le cœur gonflé d'espoir, Rain était cependant torturé d'angoisse. Chaque jour qui passait était encore un jour séparé d'elle, mais pire, c'était un jour de plus que Malta vivait en captivité. Il maudissait son imagination qui lui représentait des images d'elle en butte à la brutalité des hommes. En se couchant près du feu, il espéra qu'il ne rêverait pas cette nuit. Trop souvent, ses rêves de Malta tournaient au cauchemar. Mais s'empêcher de penser à elle en s'assoupissant, c'était comme s'empêcher de respirer. Il se rappela la dernière fois qu'il l'avait vue. Sans souci des convenances, ils avaient été seuls tous les deux. Il l'avait serrée dans ses bras. Elle avait demandé à voir son visage, mais il avait refusé. « Vous pourrez me voir quand vous accepterez de m'épouser », lui avait-il dit. Parfois, dans ses rêves, quand enfin il la tenait dans ses bras bien en sûreté, il lui permettait étourdiment de soulever son voile. Elle reculait toujours, horrifiée, et se débattait pour échapper à son étreinte. Rien à faire. Il ne s'endormirait jamais s'il continuait à penser de la sorte. Il se souvint alors de Malta à la fenêtre, en train de contempler trois nousses, tandis qu'il brossait son épaisse chevelure noire. Dans ses mains gantées, les cheveux étaient comme de la soie lourde et leur parfum lui montait aux narines. Ils avaient été ensemble, elle avait été en sécurité. Il glissa dans sa bouche une pastille au miel et sourit en savourant sa douceur. Il frôlait le sommeil quand Tintaglia revint. Elle le réveilla comme elle le faisait toujours, en ajoutant trop de bois dans le feu. Elle s'allongea à côté de lui, comme elle avait pris l'habitude de le faire, formant écran entre lui et la nuit. Son corps arrondi autour de lui retenait la chaleur. Tandis que le bois qu'elle avait lâché dans le feu s'enflammait et réchauffait, Rain sombra profondément dans le sommeil. Dans son rêve, il brossait encore les longs cheveux brillants de Malta, mais cette fois, elle regardait droit devant elle, à la proue d'un navire. La nuit était claire et froide. Des étoiles scintillaient, aiguës, perçant le ciel hivernal. Il entendit une voile claquer au vent. À l'horizon, les contours noirs d'îles masquaient les étoiles étincelantes qui fourmillaient, et il sut qu'elle avait les larmes aux yeux. « Comment suis-je arrivée à me retrouver aussi seule ? » demanda-t-elle dans la nuit. Elle baissa la tête et il vit les larmes chaudes couler sur ses joues. Son cœur se serra à l'étouffer. Pourtant, l'instant d'après, sa poitrine se gonfla d'orgueil quand elle releva la tête, la mâchoire serrée, résolue. Il la sentit respirer profondément et demeura avec elle alors qu'elle raidissait sa volonté et refusait de céder au désespoir. Il sut à ce moment-là qu'il ne désirait rien d'autre qu'être à ses côtés. Ce n'était pas une colombe roucoulante qu'il fallait protéger. C'était une tigresse, aussi forte que le vent qui la balayait, une partenaire sur laquelle un homme des pluies pouvait compter. La force de son émotion déferla et enveloppa Malta comme une couverture. « Malta, ma chérie, je te donne toute ma force, » murmura-t-il, « car tu es ma force et mon espoir. » Elle tourna vivement la tête.
« Rain ?»
demanda-t-elle dans la nuit.
« Rain ?»
L'espoir qui vibrait dans sa voix le réveilla en sursaut. Derrière lui, le sable et la pierre grinçaient contre les écailles de Tintaglia qui remuaient.
« Tiens, tiens !»
dit-elle d'une voix ensommeillée.
« Je suis surprise, je croyais que seul un ancien pouvait voyager en rêve. »
Il respira à fond.
C'était comme partager la boîte à rêves avec elle. C'était réel, n'est-ce pas? J'ai été avec elle là-bas.
En effet, vous avez partagé ce moment, c'était réel. Mais je ne sais pas ce que tu veux dire par « boîte à rêves ».
C'est un objet de chez moi, quelque chose dont les amoureux se servent de temps en temps quand ils sont séparés.
Il laissa tomber ces mots, puis s'interrompit. Il n'allait pas mentionner que ces boîtes contenaient une infime quantité de bois sorcier réduit en poudre mélangé à de puissantes herbes à rêve.
D'habitude, quand des amoureux se rencontrent dans ces songes, ils partagent ce qu'ils imaginent. Mais ce soir, j'ai senti que Malta était éveillée et que j'étais avec elle dans sa pensée.
« En effet, »
fit observer le dragon sur un ton suffisant.
« Dommage que tu ne sois pas plus versé dans ces voyages oniriques. Tu aurais pu lui faire connaître ta présence et elle t'aurait dit où la trouver. »
Rain fit un large sourire.
« J'ai vu les étoiles. Je connais le cap de son navire. Et j'ai vu qu'elle ne souffrait pas et qu'elle n'était pas enfermée. Dragon, tu ne peux pas savoir à quel point cela me réconforte. »«
Vraiment ?»
Le dragon rit doucement.
« Rain, plus nous passons de temps ensemble, plus les barrières qui nous séparent s'amenuisent. Les anciens qui pouvaient voyager en rêve étaient tous amis des dragons. Je devine que ta nouvelle faculté vient aussi de là. Regarde-toi. Chaque jour, tu me ressembles un peu plus. Es-tu né avec des yeux cuivrés? J'en doute, et je doute plus encore qu'ils aient flamboyé comme aujourd'hui. Tu as mal au dos car tu grandis. Regarde tes mains, les ongles s'épaississent, imitent mes griffes. La lueur du feu danse sur les écailles lustrées à ton front. Même enfermés dans leur cocon, mes semblables ont laissé des marques sur ta race. Maintenant que les dragons sont éveillés et parcourent à nouveau le monde, ceux qui se targuent de notre amitié porteront les signes de cette association. Rain, si tu trouves une compagne, que tu engendres des enfants, la prochaine génération sera formée d'anciens. »
Rain en eut le souffle coupé. Il s'assit et la contempla, bouche bée. Elle étira ses mâchoires redoutables avec amusement et lui parla en pensée.
« Ouvre-moi ton esprit. Laisse-moi voir les étoiles et les îles que tu as aperçues. Peut-être pourrais-je reconnaître quelque chose. Demain, nous reprendrons les recherches d'une femme digne d'être la mère d'anciens. »
Malta fit quelques pas hésitants dans l'obscurité.
« Rain ?»
chuchota-t-elle à nouveau le cœur battant. C'était insensé, bien sûr, mais cela avait paru si réel. Elle avait senti la caresse sur ses cheveux, elle avait humé son odeur dans l'air. C'était impossible. C'était seulement son cœur puéril qui soupirait après un passé révolu. Même si elle arrivait à rentrer à Terrilville, elle ne serait jamais plus la même. La cicatrice striée qu'elle portait au front la stigmatisait déjà, mais s'y ajouteraient les rumeurs et les ragots. Rain voudrait peut-être encore d'elle, mais sa famille n'autoriserait jamais le mariage. Elle était une femme dégradée. La seule issue acceptable pour elle à Terrilville serait de mener une vie simple et retirée. Elle serra la mâchoire et laissa la colère se transformer en force. Elle ne retournerait jamais à cette existence. Elle se ferait un chemin contre ce courant de malheur, se bâtirait une vie nouvelle. Rêver du passé ne ferait que la paralyser de regrets. Elle écarta résolument toute pensée de Rain. Froidement, elle évalua les outils qui lui restaient. Son corps, son intelligence lui appartenaient, elle en ferait bon usage. Elle était montée furtivement sur le pont dans la nuit pour être seule, pour s'éloigner des deux hommes qui lui empoisonnaient la vie. Les deux s'obstinaient à vouloir posséder son corps. Le capitaine rouge se voyait avec complaisance son maître en plaisir charnel. Pour le gouverneur, elle représentait une consolation physique dans sa captivité, comme un petit enfant se console avec une sucrerie. Elle se sentait salie et harassée par les galanteries intéressées de l'un et le pelotage sournois de l'autre. Elle devait les décourager tous les deux sans toutefois leur opposer de refus catégorique. Elle avait découvert que, dans ce domaine, les hommes sont gouvernés par leur imagination. Tant que le capitaine rouge et le gouverneur se figureraient qu'elle pouvait céder, ils s'appliqueraient à l'impressionner. Au capitaine, elle était capable d'arracher quelques petites libertés qui lui rendaient la vie tolérable. Elle pouvait arpenter seule le pont, dîner à sa table et dire à peu près ce qu'elle pensait. Quant au gouverneur, elle glanait quelques renseignements dans les récits vantards qui lui faisaient des splendeurs de la cour. Renseignements dont elle espérait se servir pour racheter leur liberté à Kenith. Elle était décidée à la racheter, cette liberté, pour Kosgo et elle-même. D'une certaine façon, durant cette captivité commune, elle en était venue à considérer le gouverneur comme sa chose. Aussi irritant qu'il soit, Elle se sentait propriétaire de lui. Elle l'avait maintenu en vie, indemne. Si quelqu'un devait profiter de la valeur qu'il avait comme otage, ce serait Malta Vestrit. Le gouverneur Cosgo serait la clé de sa survie à Jamelia. Quand il serait rendu à ses sujets jaméliens, elle irait avec lui. Elle lui serait alors devenue indispensable. Elle rassembla tout son courage. Elle redoutait ses séances avec Cosgo. Elle détacha ses cheveux, dernier vestige de sa beauté, comme si elle était encore une petite fille, gagna la cabine du gouverneur et frappa à la porte.
« Pourquoi prendre la peine de frapper ? »
répondit-il avec amertume.
« Vous entrerez, que ça me chante ou non. »«
C'est vrai, monseigneur, »
admit-elle en pénétrant dans la chambre éclairée seulement par une lampe qui coulait. Elle remonta la mèche et s'assit au pied de son lit. Le gouverneur était adossé à son oreiller, voûté, genou sous le menton. Elle s'était doutée qu'il serait éveillé. Il dormait tout le jour, et la nuit, il broyait du noir. Pour autant qu'elle le sût, il n'avait pas quitté sa cabine depuis qu'ils étaient montés à bord. Il avait l'air très jeune et très grognon. Elle se força à sourire.
« Comment vous sentez-vous ce soir, gouverneur Magnadon ?»«
Exactement comme hier. Exactement comme je me sentirai demain soir. Malheureux, malade, mourant d'ennui. Trahi. »
Il prononça le dernier mot en appuyant sur elle un regard accusateur. Elle ne réagit pas.
« En fait, vous semblez aller beaucoup mieux, mais on étouffe dans cette étroite cabine. Dehors, il y a une brise fraîche. Je pensais que peut-être vous aimeriez vous joindre à moi pour un petit tour sur le pont. »
La maladie du gouverneur avait fini par passer. Ces deux derniers jours, son appétit s'était réveillé. L'ordinaire du navire qu'elle lui apportait ne s'était pas amélioré, mais il avait renoncé à s'en plaindre. Ce soir, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, ses yeux étaient limpides.
« Et pourquoi irais-je ? »
« Pour changer un peu, à défaut d'autre chose. Peut-être monseigneur sera-t-il content de... »«
Cessez !»
grogna-t-il d'une voix qu'elle ne lui connaissait pas.
« Gouverneur Magnadon ?»«
Cessez de vous moquer de moi !» « Seigneur ceci, tout-puissant cela, je ne suis rien de tout ça désormais, et vous me méprisez. Alors cessez de jouer une comédie qui nous dégrade tous les deux. »«
Vous parlez comme un homme ? »
s'exclama-t-elle à l'étourdie. Il lui lança un regard sinistre.
« Comment devrais-je parler ?»«
J'ai dit cela sans réfléchir, seigneur, » fit-elle en mentant.
« Cela vous arrive souvent, et à moi aussi. » « C'est une des rares choses que j'apprécie chez vous, »
rétorqua-t-il. Elle fut capable de garder le sourire en se rappelant qu'il lui appartenait. Il remua dans son lit, puis posa les pieds par terre. Il se leva, hésitant.
« Très bien alors, »
annonça-t-il subitement.
« Je vais sortir. »
Elle dissimula sa surprise dans un sourire crispé. Elle trouva un manteau dont elle l'enveloppa. Le manteau flottait sur son corps chétif. Elle ouvrit la porte, il passa devant elle, une main sur le mur, et il la surprit en lui prenant le bras. Il marchait comme un infirme, à petits pas incertains, mais elle résista à la tentation de le presser. Elle poussa le battant donnant sur l'extérieur et le vent coupant leur souffla au visage. Il hoqueta et s'arrêta. Elle crut qu'il allait battre en retraite, mais il s'obstina et poursuivit son chemin. Sur le pont, il resserra le manteau autour de lui, quoiqu'il ne fît pas si froid. Il promena son regard alentour, leva les yeux avant de quitter le rouf. De sa démarche de vieillard, il trottina jusqu'à la Lys pour contempler la mer et le ciel étoilé comme s'il s'agissait d'un paysage inconnu. Malta se tenait à ses côtés en silence. Il était essoufflé comme s'il venait de courir. Au bout d'un moment, il déclara
« Le monde est vaste et féroce. » « Je ne m'en étais pas vraiment rendu compte avant d'avoir quitté Jamelia. »«
Gouverneur Magnadon, vos nobles et votre père ont ressenti la nécessité de protéger l'héritier du trône de perles. »«
Il fut un temps. »
commença-t-il avec hésitation en plissant le front.
« J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. »« Quand j'étais enfant, je montais à cheval et je chassais au faucon. »
À l'âge de 8 ans, j'ai fait sensation en participant aux courses d'été. J'ai couru avec d'autres garçons et jeunes gens de Jamelia. Je n'ai pas gagné, mais mon père m'a tout de même complimenté. Moi, j'étais anéanti, vous comprenez, j'ignorais que je pouvais perdre.
Sa voix s'éteignit, mais Malta perçut sa contention d'esprit.
On avait négligé de m'enseigner cela, vous voyez. J'aurais pu apprendre quand j'étais plus jeune, mais on écartait de moi les choses auxquelles je ne réussissais pas, et on me complimentait à chaque succès, comme si c'était un miracle. Tous mes tuteurs et mes conseillers me répétaient que j'étais merveilleux, et je les croyais. Sinon que j'ai commencé à lire la déception dans les yeux de mon père. À 11 ans, j'ai découvert les plaisirs des hommes. Vin fin, herbes à fumer sournoisement mélangées, femmes expertes, voilà ce que m'offraient mes nobles et les dignitaires étrangers, et j'ai tout essayé. Et là-dedans, quel succès! La fumée, le vin, la femme qui convienne peuvent rendre brillant n'importe qui. Le saviez-vous? Moi pas. J'ai cru que cela tenait à moi, que je brillais comme le plus beau joyau de Jamelia.
Il se détourna brusquement de la mer.
Ramenez-moi. Vous avez eu tort. Quel froid de chien ici!
Bien sûr, gouverneur Magnadon, murmura Malta.
Elle lui offrit le bras qu'il prit tout grelottant, et il s'appuya sur elle tout le long du chemin jusqu'à la cabine. Une fois arrivé dans sa chambre, il laissa tomber le manteau. Il grimpa dans son lit et s'emmitoufla dans les couvertures.
Oh, si Kéki était là!
Il frissonna.
Elle savait me réchauffer. Elle savait m'émouvoir comme aucune autre.
Je vais vous laisser vous reposer, gouverneur Magnadon,
se hâta de dire Malta.
La voix de Cosgo l'arrêta à la porte.
Que vais-je devenir, Malta? Le savez-vous?
La question plaintive la laissa interdite.
Je l'ignore, seigneur,
admit-elle humblement.
Vous en savez plus que moi. Pour la première fois depuis que je suis devenu gouverneur, je comprends, je crois, ce que les compagnes de cœur sont censées faire. Enfin, les miennes n'ont pas été nombreuses à le faire. Elles doivent connaître les points de détail de ce que je n'ai eu ni le temps ni l'occasion d'apprendre, et elles doivent être sincères, ni flatteuses, ni délicates, sincères. Alors, dites-moi, quelle est ma situation? Et que conseillez-vous?
Je ne suis pas votre compagne de cœur, gouverneur Cosgo.
Absolument exact. Et vous ne le serez jamais. Néanmoins, pour le moment, vous devrez en faire office. Dites-moi, quelle est ma situation?
Malta respira à fond.
Vous êtes destiné en cadeau au roi Kénith des îles des pirates. Le capitaine Rouge pense que Kénith va vous céder au plus offrant contre rançon, mais même cela n'est pas certain. Si Kénith se décide, si l'argent est tout ce que vous pouvez lui rapporter, alors il lui sera indifférent que l'acheteur soit votre allié ou votre ennemi. Le capitaine Rouge m'a chargé de découvrir lequel parmi vos nobles serait prêt à donner le plus pour vous récupérer.
Le gouverneur eut un sourire amer.
Cela signifie, je suppose, qu'ils savent déjà lequel de mes ennemis va enchérir.
Je l'ignore.
Malta réfléchit profondément.
Vous devriez vous demander lesquels parmi vos alliés pourraient offrir une grosse récompense en échange de votre vie. Quand le moment sera venu, vous devriez écrire une lettre pour les prier de verser la rançon.
Petite sotte, ce n'est pas ainsi que cela se fera. Je négocierai moi-même le prix de ma rançon avec Kénith. Je lui délivrerai des lettres de change et j'exigerai qu'il me procure un moyen de rentrer à Jamelia. Je suis le gouverneur, vous savez.
Seigneur gouverneur,
commença-t-elle hésitante. Elle raffermit sa voix. Il avait réclamé de la sincérité.
On allait constater ce qu'il en ferait. Les autres voient votre situation d'un œil différent. Kénith n'acceptera pas de lettres de change de vous ou de qui que ce soit. Il exigera votre rançon en espèces sonnantes et trébuchantes, et ceci avant de vous libérer. Et il lui importera peu de savoir d'où vient l'argent, de vos nobles fidèles ou de ceux qui ne souhaitent pas votre retour. les nouveaux marchands, les Chalcédiens qui pourraient vous utiliser comme otage, ce sera le dernier de ses soucis. C'est pourquoi vous devez bien réfléchir. Quels sont ceux qui vous sont d'une loyauté indéfectible? Qui est assez fidèle et assez riche pour racheter votre liberté?
Le gouverneur se mit à rire.
La réponse est terriblement simple. Personne. Il n'y a pas de noble dont la loyauté soit indéfectible. Quant à la fortune, les plus riches ont le plus à gagner avec ma disparition. Si je péris, quelqu'un doit devenir le gouverneur. Pourquoi dépenser sa fortune pour acheter l'occupant d'un trône quand ce trône même peut vous appartenir?
Malta garda le silence. Elle finit par demander à mi-voix.
Alors, personne ne versera votre rançon?
Il rit de nouveau d'un rire plus strident.
Ah, assurément, on versera ma rançon et la vôtre. Nous serons rachetés par ceux qui ont le plus intérêt à me voir disparaître sans témoin.
Il se tourna vers la cloison.
Ceux qui ont poussé les plus hauts cris à mon départ de Jamelia. Ceux qui ont conspiré pour m'envoyer courir cette funeste aventure. Je ne suis pas stupide, Malta. Les marchands de Terrilville avaient raison. Il y avait bien complot, dans lequel ont dû tremper nobles, diplomates chalcédiens et nouveaux marchands. Ils ont mordu la main qui les nourrissait, car chacun pensait qu'une fois cette main disparue, ils pourraient se tailler la part du lion.
Alors, ils doivent encore en être à se la disputer, cette part du lion,
risqua Malta.
Tout se résume à un marché. Grand-mère disait toujours « Cherche qui profite le plus ».
Elle fronça les sourcils sans prêter attention à sa cicatrice qui lui tirait la peau.
Elle affirmait que quand on veut s'ingérer dans une affaire, il faut rechercher celui qui en profite le plus. Soutiens ses intérêts et il te prendra comme associé. Donc, qui profite le moins du trône vacant?
Oh, allons!
Écœuré, il se retourna pour lui faire face.
C'est dégradant. Vous réduisez ma vie et le destin du trône à quelques querelles mercantiles.
Il eut un reniflement de dédain.
Mais qu'attendre d'autre de la part d'une fille de marchand? Votre vie, c'est acheter et vendre. Sans doute que votre grand-mère et votre mère ont vu votre brève beauté comme un objet de troc. Le marchand Restart, lui, ça ne fait aucun doute.
Malta se redressa de toute sa hauteur. Elle attendit d'être parfaitement maîtresse d'elle-même avant de répondre. Son armure, c'était l'indifférence à ce genre de raillerie.
Les commerçants négocient des marchandises. Les gouverneurs et les nobles négocient le pouvoir. Vous, noble Magnadon, vous faites des illusions si vous croyez que leurs machinations sont très différentes.
La remarque ne parut pas l'impressionner, mais il ne contesta pas sa conclusion.
« Eh bien donc, pour répondre à votre question, tous profitent de mon absence. En tout cas, tous les nobles riches ou influents. »
« Alors voilà la réponse. Songez à ceux qui n'ont ni argent ni influence. Ceux-ci sont vos alliés. »«
Ah, magnifique allié que voilà! Avec quoi vont-ils racheter ma liberté? Par des belles paroles? De la crotte de bique? Des gambades ?»«
Avant de vous demander comment ils rachèteront votre liberté, demandez-vous en quoi cela leur profitera. Faites-leur comprendre qu'il est dans leur intérêt de vous libérer, et ils trouveront les moyens. »
Elle détacha sa cape et s'assit au bout du lit. Le gouverneur se redressa pour lui faire face.
« Alors, réfléchissez !»
Le gouverneur de Jamelia appuya la tête sur la cloison. Avec sa peau livide et ses cernes noires, il ressemblait davantage à un enfant gravement malade qu'à un souverain soucieux.
« C'est inutile, »
dit-il sur un ton désabusé.
« C'est trop loin. Personne à Jamelia ne va s'activer pour ma cause. Mes ennemis sont trop nombreux. Je serai vendu et sacrifié comme un agneau un jour de fête. »
Il roula des yeux et la dévisagea.
« Vous voyez, Malta, on ne peut pas tout résoudre avec votre morale de marchand. »
Une idée surgit brusquement dans l'esprit de Malta. « Et si c'était possible, gouverneur Magnadon ?»
Elle se pencha en avant, les nerfs tendus.
« Si, avec ma morale de marchand,
je pouvais vous sauver ainsi que votre trône, que cela me vaudrait-il ?
Vous ne pouvez pas, alors à quoi bon conjecturer ?
Il secoua mollement la main.
Allez-vous-en ! Votre idée idiote d'une promenade sur ce pont glacial m'a fatigué. Je vais dormir maintenant.
Non, rétorqua-t-elle. Vous allez rester là à vous lamenter sur vous-même. Alors secouez-vous. Vous dites que je ne peux pas vous sauver. Moi, je crois que je le peux. Je propose un pari.
Elle releva le menton.
Si je vous sauve, je suis sauvé avec vous. Vous m'attribuerez la fonction de...
Oh, ne me demandez pas d'être nommée compagne de cœur. Ce serait trop humiliant. Autant me demander de vous épouser.
Une étincelle de colère jaillit en elle.
Je vous assure bien que je ne m'abaisserai pas ainsi. Non. Vous me nommerez, ainsi que ma famille, comme votre représentante à Terrilleville et au désert des pluies. Vous reconnaîtrez l'indépendance de Terrilleville et des marchands. Et les Vestrites seront les représentants exclusifs des intérêts jaméliens.
Un sourire commença à poindre sur son visage, tandis que dans son esprit brillait une idée lumineuse. En ayant accompli cette prouesse, elle pourrait retourner à Terrilleville. Ni cicatrice, ni honte ne pèserait lourd au regard d'un coup pareil. Ce serait l'affaire suprême, le meilleur marché qu'ait passé un négociant. Sa grand-mère serait fière d'elle, jusqu'à la famille de Reine qui pourrait...
« Vous voulez Terrilleville pour vous toute seule ? C'est un pari ridicule !»«
Vraiment ? Je vous offre le trône et la vie en échange. »
Elle inclina la tête.
« L'indépendance de Terrilleville est pratiquement une réalité de toute façon. Vous reconnaîtriez seulement ce qui existe déjà, et vous feriez en sorte que Jamelia et Terrilleville puissent continuer à entretenir des liens d'amitié. Perdre ce pari reviendrait seulement à devoir prendre une sage décision dans tous les cas. »
Il la regarda fixement.
« J'ai déjà entendu ce discours. Je ne suis pas certain d'être d'accord. Mais comment regagnerez-vous ma liberté et mon trône ? » ?»«
Montrez-moi mon intérêt et je trouverai le moyen. »
Elle sourit.
« D'accord ?»«
Oh, d'accord !»
répondit avec impatience le gouverneur.
« Il n'empêche, c'est un pari ridicule que vous ne pouvez pas gagner. Autant toper là. »
« Et vous coopérez avec moi pour m'aider à le gagner ?» insista-t-elle.
« Que dois-je faire pour cela ? »
dit-il en grimaçant.
« Tâchez de vous présenter à vos ravisseurs comme je vous l'indiquerai et approuvez ce que je leur dirai. »
L'émotion la gagnait. Le défaitisme qu'elle avait éprouvé plus tôt s'était dissipé. Il ne lui restait pour toute fortune que son intelligence. Peut-être n'avait-elle jamais eu besoin de rien d'autre.
Qu'avez-vous l'intention de leur dire ?
Je n'en sais trop rien pour l'instant. Mais vous m'avez fait réfléchir quand vous avez déclaré qu'il n'y avait personne à Jamelia qui profiterait de votre retour au pouvoir. Elle se mordilla la lèvre pensivement. Nous devons découvrir le moyen par lequel... « Les pirates eux-mêmes profiteraient grandement de votre retour au pouvoir. »